Format ce jour, c'est avec Sylvain Yaman, le siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. À Yaoundé abrite vendredi prochain une conférence de presse. Ce sera un prélude à la tenue des travaux du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de cette commission qui se tiendront dans la capitale camerounaise. En attendant, regardons de près les perspectives macroéconomiques de la zone CEMAC. Cela motivé par la publication la semaine dernière à Yaoundé de la note de conjoncture suite à la troisième session du comité de politique monétaire de la BEAC. Grand format est une signature de Sylvain Yaman.
Pour ce qui concerne le contexte économique de la CEMAC, malgré l'atténuation des pressions inflationnistes, la croissance économique mondiale baisserait, selon le Fonds monétaire international, de 3,3% en 2023 à 3,2% en 2024, avant de se redresser à 3,3% en 2025.
Ce sont des précisions faites par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, Yvon Sanabangui, président du comité de politique monétaire de la Banque centrale, au terme des travaux de la troisième session de ce comité de politique monétaire tenu au siège de la BEAC à Yaoundé.
Au niveau de la CEMAC, le cadre macroéconomique se caractérisait, selon nos référents prévisions, par une croissance du PIB réel de la CEMAC à 2,9% en 2024, contre 2,2% en 2023. Une inflation persistante, bien qu'en baisse, autour de 4,2% en 2024, contre 5,6% en 2023. Nous relevons un repli du déficit budgétaire passant de 0,9% du PIB en 2023 à moins 0,3% en 2024. S'agissant de l'excédent du compte courant qui a connu une augmentation et qui passerait de 2,1% du PIB en 2023 à 3,7% du PIB en 2024. Nous notons une progression de la masse monétaire de 13,6% contre 9,1% en 2023. Et aussi, en ce qui concerne les réserves de change, le niveau actuel permet de couvrir 4,5 mois d'importation de biens et services en 2024 contre 4,8 mois en 2023. À propos des décisions de politique monétaire, à la lumière des évolutions, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres à 5%, le taux de la facilité de prêt marginale à 6,75%, le taux de la facilité de dépôt à 0% et les coefficients des réserves obligatoires à 7% sur les exigibilités à vue et 4,5% sur les exigibilités à terme.
La croissance économique s'entretient, du coup, tous les secteurs doivent être mis en branle. Docteur Julien Ngeniateba, économiste et logisticien des transports.
Les statistiques du comité de politique monétaire laissent quand même croire qu'il y a des niches économiques qu'on peut encore exploiter, par exemple au niveau du commerce et du transport. Vous voyez si bien que les activités du commerce international des produits non pétroliers est assez reluisant. Et donc, on peut davantage appuyer ces leviers-là pour développer davantage les échanges. Et évidemment, pour les développer, il y a quand même la dimension transport. Vous savez, le transport joue un rôle très important dans la disponibilité des biens. Vous savez, pour déplacer un bien d'un endroit à un autre, il faut du transport. Il faut faire le coup au transport routier, au transport ferroviaire, au transport maritime, au transport aérien. Et donc, il y a une dépendance, justement, du commerce vis-à-vis du transport. Et il faut cette interaction, c'est ce qu'on appelle la géographie du transport et des voyageurs. Parce qu'en réalité, la répartition des biens dans un territoire, par exemple, comme le Cameroun, comme la RCA, le Tchad et autres, nécessite ce que l'on appelle une connectivité du transport. La connectivité du transport joue un rôle très important dans la croissance économique. Et donc, pour que les pays de la SEMA puissent tirer profit, n'est-ce pas, de ces indicateurs macroéconomiques comme l'agrégat sur le taux de croissance, qui va quand même atteindre les 2,9% tel que le comité de politique monétaire l'a signalé, il faut davantage impulser une dynamique au niveau de certaines activités du commerce, les activités de transport, les activités pétrolières, parce que la logistique pétrolière également est indexée au niveau du transport. Et donc, il y a une corrélation entre biens transportés, commerce, transport, produits pétroliers, et ça crée toute une chaîne logistique dans la connectivité du transport. Quand vous n'avez pas de connectivité de transport, vous ne pouvez pas développer le commerce. Et si vous ne pouvez pas développer le commerce, vous ne pouvez pas accroître votre croissance économique.
La paix et la sécurité sont alors consolidées chaque fois que la croissance économique est au beau fixe. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, zone CEMAC, a besoin de paix. Des perspectives macroéconomiques vues de près par le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies, Dr Jean-Luc Mastaki.
La croissance est résiliente, mais elle reste autour de 2,93%. Nous sommes d'ores et déjà à un taux qui, du point de vue quantitatif, ne s'aligne pas sur les ambitions de nos pays dans leur effort transformateur. La plupart des stratégies dans la sous-région établissent qu'une croissance de 6 à 7% de façon durable et maintenue, façon durable, pourrait être transformateur. Nous sommes donc en bas de plus de la moitié de certains targets, de certaines stratégies de développement au niveau national. Ça, c'est au niveau quantitatif. Au niveau qualitatif, les mêmes griefs demeurent. Notre croissance est faible, mais aussi elle demeure tirée par les secteurs des ressources naturelles et des matières premières. Il nous faut donc investir davantage dans une croissance qui soit qualitative et qui soit inclusive. Parce que telle qu'elle est là, elle est faible, mais aussi sa nature qualitative fait en sorte qu'elle ne promet pas beaucoup d'emplois, les emplois dont on a besoin pour cette population jeune, et ainsi de suite. Mais aussi, elle n'a pas d'incidence majeure sur la pauvreté. Nous sommes encore à plus de 110 millions de notre population en Afrique centrale, de façon générale, dans la zone CEAC, vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, nous avons encore besoin d'une croissance qui puisse se traduire en amélioration d'indicateurs de développement social pour nos pays.
Les 51 millions d'habitants des 6 pays de la zone CEMAC attendent ardemment cette transformation structurelle de l'économie de la sous-région. Au cœur des perspectives macroéconomiques, montage et mixage, Guy-Joël Noah, Oscar Afan, conception et présentation, Sylvain Yangman.
Voilà, merci à vous Sylvain Yangman. 12h passées de 41 minutes, Cameroun Magazine se poursuit avec cet autre élément de Armand Nonga, qui nous parle de la semaine de l'habitat. Nous sommes rendus ce mardi au deuxième jour de la semaine de l'habitat du côté des Bolova qui abrite l'événement. Et pour ce jour 2 de la semaine de l'habitat, deux tables rondes sur les questions jeunes et leur implication dans la construction urbaine et la question de l'habitat pour certaines couches de la société. Une soirée gastronomique est également prévue. C'est une première d'une série de trois qui vient ainsi présenter l'art culinaire de l'ère culturelle, le Fan Beti. Allons à Ebolova retrouver là-bas Armand Nonga. Bonjour Armand.
Bonjour Marie-Virginie Bousnoum, bienvenue à Ebolova. C'est la deuxième journée de la semaine de l'habitat démarrée hier dans la capitale régionale du Sud. Deux tables rondes et une session spéciale sont prévues ce jour pour meubler la deuxième journée de la semaine de l'habitat. État des lieux de l'implication des jeunes dans le développement est la première de ces tables rondes qui a démarré à 9h et modérée par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kecha-Épouse Courtès, dans la salle de l'unité de l'hôtel Bengo. La deuxième, coopérative d'habitat et autoconstruction, alternative pragmatique pour un habitat plus durable à la salle de traduction de l'hôtel Bengo, modérée par le Crédit foncier du Cameroun. Et pour finir, une session spéciale ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est une causerie éducative avec les jeunes sur leur perception de leur rôle dans la transformation durable de nos villes. Hier déjà, la semaine de l'habitat s'est ouverte avec une marche inaugurale sur plus de 3 km à 9 heures et surtout un point de presse de lancement officiel à la salle de conférence Hydropole du centre touristique de Nkolandom. Quelques questions ont retenu l'attention. Retour sur deux d'entre elles.
Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le thème de célébration de cette année vous interpelle. Engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur. La célébration, c'est lundi et le lendemain, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qui va être fait au quotidien? Pourquoi on n'a pas l'impression qu'on est resté simplement dans les discours pour que les jeunes soient véritablement impliqués dans ce processus?
Merci beaucoup, M. Armand Onga de la CRTV, pour cette question. Mais avant d'y revenir, permettez-moi de remercier Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain d'avoir associé le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique de manière toute particulière à cette célébration. En réalité, le message qu'elle a donné, c'est celui du gouvernement est solidaire sur la très haute intention du président de la République, son excellence M. Kondia, et la coordination de M. le Premier ministre du gouvernement, qui est Dr. Elisabeth Mbouté. Évidemment, de son message, vous avez vu qu'elle a si bien développé la synergie nécessaire entre nos deux départements ministériels sur les questions du développement urbain. Elle a dit également que le chef de l'État, c'est un visionnaire qui a très tôt développé une politique nationale de la jeunesse. Pionnière parce que en 2004, quand il crée le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, la charte africaine de la jeunesse n'était même pas encore adoptée. Et depuis lors, un certain nombre d'outils ont été mis en place pour permettre aujourd'hui l'engagement de cette jeunesse pour participer à un avenir meilleur dans le développement urbain. Ceci m'amène à dire à la question posée qui concerne l'après, charmant, donc l'après, cette célébration, ce dispositif est durable. Il est mis en place pour qu'à chaque instant et tout au long de l'année, les jeunes se déploient. C'est pourquoi on a un agenda civique national qui commence par la célébration de la fête de la jeunesse avec la onzaine de la jeunesse où nous intensifions ces actions de l'engagement civique et patriotique de la jeunesse. Ensuite, nous avons d'autres regroupements avec les jeux scolaires, les jeux universitaires. Le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur est ici pour témoigner dans quelle synergie nous travaillons pour prendre en charge, pour engager cette jeunesse universitaire dans les chantiers de développement national. Alors, donc, après, vous avez des opérations comme les vacances citoyennes et patriotiques, parce que les vacances sont des périodes délicates de l'année, et nous essayons d'accompagner les parents et avec tous les partenaires dont j'ai parlé pour prendre en charge cette jeunesse-là et encore l'engager de manière patriotique. Madame Mindu est une championne dans ce secteur-là, puisque chaque année, elle organise véritablement des heures de vacances dans la Bangante qui occupe vraiment la jeunesse et qui permet de l'engager dans ces chantiers, notamment en milieu urbain. Et évidemment, nous poursuivons avec les rentrées citoyennes et patriotiques qui est actuellement en train de se déployer. Nos équipes mobiles, les EMAPUR, avec nos médiateurs communautaires, depuis la rentrée scolaire, se sont déployés pour porter ces messages-là en direction de la jeunesse vont le poursuivre avec les rentrées universitaires qui sont annoncées. Et ceci pour véritablement qu'aucun jeune ne soit laissé pour compte, comme Madame le ministre l'a dit.
Madame le ministre d'Habitat et de Développement Urbain, vous avez parlé de ville propre. Ça m'amène à m'intéresser à ce concours, ville propre. Nous avons des communes au Cameroun qui sont logées dans des capitales régionales, qui bénéficient d'un certain nombre de commodités, ce qui n'est pas le cas des autres communes à l'arrière-pays. On a par exemple le service ISACA, on a l'éclairage public, on a ceci, cela. Est-ce que finalement on n'a pas l'impression qu'on assiste au concours de la ville la plus belle et non pas la ville la plus propre? Je vous remercie.
Oui, monsieur Nonga, vous avez parlé de la ville la plus belle, parce qu'il y a des villes qui sont accompagnées par ISACA, mais il y a des villes qui sont accompagnées par des partenaires. Non, il ne s'agit pas de la ville la plus belle. La ville la plus propre, c'est la ville où tous les acteurs, que ce soit les chefs de quartier, les associations de femmes, des jeunes, les édiles des villes, aujourd'hui les élus régionaux, les élites, se mettent ensemble pour donner une image à la ville. Il est vrai que vous allez avoir des villes de 3 millions d'habitants, 4 millions d'habitants, qui seront accompagnées, parce que l'État veut accompagner ces villes-là avec la production des déchets liés à cette population. Mais si ces villes n'ont pas la démarche, n'ont pas l'engagement, n'ont pas la gouvernance qu'il faut pour, malgré l'accompagnement, vous allez voir que pendant déjà les trois dernières années, les villes qui ont gagné, non pas ISACA, mais moi-même à l'époque, ville de Bamaté, j'avais gagné le prix des Nations Unies face à Paris, face à d'autres villes. Moi, j'étais pas une grande ville, mais c'est que on apprécie l'engagement que vous mettez pour rendre votre cadre propre, l'engagement que vous mettez pour engager aussi les bénéficiaires des actions que vous menez, la gouvernance que vous mettez dans ce que vous faites pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Que ce soit en matière d'accès à l'eau, en matière de gestion des déchets, en matière d'éducation, en matière. Donc c'est la démarche, l'état d'esprit et la durabilité des actions menées qui sont prises en compte. Vous allez voir que dans le Nord, je pense que dans le Nord, c'est la commune de Mbon, vous avez Mayo d'Arlé, qui n'est pas accompagné par ISACA. C'est cette approche-là. Comment faire pour gérer vos ordures en respectant l'environnement et favoriser un environnement propre et où il fait bon vivre dans vos villes?
Il est à rappeler que Madame le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation Civique étaient assistés du ministre d'État, ministre de l'Enseignement Supérieur, le professeur Jacques Famdongo, et de Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Leboum-Liliking. Armand Nonga, à Ebolova, pour la Journée mondiale de l'Habitat. Je vous retourne l'antenne à Yaoundé.